Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2,21 gigawatts! Mon Dieu!
Recherche, scalaire.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Bon, je suis désolé, j'étais obligé de commencer par ça. Indiana Jones ne reprend pas du service, mais c'est tout comme. Deux hommes, un archéologue israélien et un chercheur suisse, auraient retrouvé la trace de l'Arche de l'Alliance. Celle-là même que les nazis convoitaient dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, le premier film, et à mon humble avis, le meilleur, du héros de Steven Spielberg. L'exploit est d'autant plus impressionnant que la piste n'est pas de première fraîcheur. Objet star de la Bible, cité plus de 200 fois dans les textes sacrés, l'Arche aurait fait escale dans un temple à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. C'est justement de ce monument dont nos deux hommes ont retrouvé les fondations. Celle-ci était enfouie sous plusieurs couches de ruines reposant sous la site d'une église nommée, je vous le donne en mille, Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. À croire que le hasard fait décidément bien les choses. Vous écoutez 6ème Science, je suis Romain Gouloumès et nous sommes partis pour 20 minutes d'archéologie. Cet épisode est un peu particulier puisque j'ai le plaisir d'accueillir Carole Châtelain, la rédactrice en chef de Science et Avenir. Bonjour Carole.
Bonjour.
Bienvenue. En l'absence d'Indiana Jones, te sens-tu prête à fouetter nos certitudes?
Aucun problème.
Alors je te propose de commencer par les bases. C'est quoi l'Arche de l'Alliance exactement et quelle est sa place religieuse?
Alors comme tu l'as dit, l'Arche d'Alliance, c'est un objet sacré qui est cité plus de 200 fois dans la Bible selon des travaux qui ont été établis par un chercheur suisse qui s'appelle Thomas Romer et qui a la chaire de recherche biblique au Collège de France avec qui nous avons monté ce dossier. Et donc 200 fois, c'est beaucoup et... Du coup, les descriptions diffèrent. C'est ça qui est très intéressant. C'est que cet objet, on n'arrive pas vraiment à saisir ce que c'est, sinon qu'il s'agit d'un coffre. Ça, c'est à peu près une certitude. Mais ce coffre, il prend un aspect extrêmement différent suivant qui en parle, suivant le livre de la Bible qui en parle. Et par exemple, dans l'Exode, c'est un coffre qui fait 1,25 m sur 75 de hauteur avec un couvercle qui serait décoré en or avec deux chérubins qui se feraient face. Mais dans le Deutéronome, qui est une autre partie de la Bible, on ne va pas rentrer dans ces arguties, c'est un petit peu complexe. Eh bien, ce coffre, il est en bois brut et il n'a pas d'ornement. Donc, voilà. A priori, c'est un coffre, mais on ne sait pas bien à quoi il ressemble. Il y a une seule constante, c'est que c'est un coffre transportable. Et il a accompagné les Hébreux, selon la Bible, dans leur traversée du désert, lorsqu'ils ont été chassés d'Égypte et qu'ils sont partis à la recherche de la terre promise. Et en fait, à chaque étape, ils protégeaient cette arche d'alliance sous une tente sacrée.
Et sa place, elle est assez centrale. Hein. C'est l'une des reliques ou l'un des objets vraiment centraux aujourd'hui dans la Bible.
Ah oui, c'est l'un des objets vraiment, on pourrait dire, l'un des objets phares de la Bible parce qu'il devait contenir quelque chose d'extrêmement précieux. Mais là encore, on ne sait pas trop quoi. Et Thomas Romer, avec les recherches qu'il a établies, a pu montrer que soit il a contenu les tables de la loi. Alors, qu'est-ce que sont les tables de la loi? Ce sont les 10 commandements qui ont été dictés, qui auraient été dictés, parce que tout ce que nous disons là, c'est selon la Bible, qui auraient été dictés par Dieu à Moïse. Donc, c'est les fameux « tu ne tueras point »,« tu honoreras ton père et ta mère »,« tu ne voleras point », etc., etc. Donc, soit ces tables de la loi qui étaient gravées ont été mises dans cette arche d'alliance, soit ce sont les deuxièmes tables de la loi, puisque si vous avez lu la Bible...
Moïse les casse.
Voilà, Moïse les casse de colère lorsqu'il revient et qu'il s'aperçoit que les Hébreux adorent encore les idoles. C'est le fameux épisode du veau d'or. Donc il brise les premières tables de la loi et il y en aurait eu des secondes. Et voilà, l'Arche d'Alliance aurait contenu ces secondes tables de la loi. Mais il y a aussi d'autres hypothèses, c'est peut-être Yahvé lui-même qui était, Yahvé, c'est Dieu, qui était dans ce coffre et qui sortait à chaque fois que les Hébreux faisaient appel à lui pour les aider, notamment dans des épisodes de guerriers. Ou alors ce coffre a aussi contenu peut-être des statuettes à effigie divine. Ça a existé, hein. On a retrouvé, on appelle ça des bétiles, ce sont des pierres sacrées qui parfois ont des yeux, ont un visage. Bon. En gros, on ne sait pas trop.
Coffre 713.
Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Je ne peux pas te le dire. Ça concerne Poudlard.
Et est-ce que, comme dans le film, hein, évidemment, de Steven Spielberg, cette arche était connue pour avoir des pouvoirs ? Est-ce qu'il ne fallait pas l'ouvrir ? Il ne fallait pas regarder à l'intérieur ?
Alors, Steven Spielberg, pour Les Aventuriers de l'Arche Perdue, donc, qui est ton film préféré, si,
oui, oui, ça fait partie. Ouais.
Qui date de 1981, c'est pas d'hier, mais c'est assez bien inspiré de la Bible. Parce qu'en fait, dans le film, l'arche est convoitée par les nazis parce qu'elle a le pouvoir de conduire n'importe quelle armée à la victoire. Donc, il ne faut absolument pas que les nazis s'en emparent. D'où l'intrigue du film.
C'est une grosse patte de lapin.
Ouais, voilà. Mais effectivement, dans la Bible, elle a ce pouvoir-là, puisque Yahvé, qui aurait été donc incarné dans cette arche d'alliance, aidait les Hébreux dans leurs exploits guerriers. Et notamment, il y a un épisode légendaire qu'on connaît tous, on en a entendu parler, c'est les fameux murs de Jéricho, puisque les Hébreux auraient porté l'Arche d'Alliance devant les sept trompettes de Jéricho pour faire tomber les murs de cette ville qui leur refusait l'entrée. Donc, effectivement, elle aurait eu ce pouvoir. Et puis, elle a aussi, chaque fois que quelqu'un l'ouvrait, il n'en avait pas l'autorisation, il était foudroyé.
Alors, loin de nous l'envie de remettre en doute l'exactitude historique de la Bible, mais quelles sont les traces, on va dire, vraiment historiques, celles qu'on peut vraiment marquer, entre guillemets, dans le marbre de cette arche ?
Bah, c'est un sujet très délicat. Et d'ailleurs, Thomas Romer, le professeur au Collège de France, et Israël Finkelstein, qui est le directeur de l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv, avec qui nous avons fait également ce dossier, sont extrêmement prudents. Et ils ne cherchent pas l'arche. Ce sont des scientifiques. Ils cherchent des traces d'une époque qui aurait été l'époque où ont été écrits les livres de la Bible. Donc, dire qu'on a trouvé des traces de l'arche, non. Dire qu'on cherche des traces archéologiques et historiques des époques contemporaines de l'écriture de la Bible, oui.
Alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, parce que la vraie question, c'est pourquoi on parle de l'Arche de l'Alliance aujourd'hui ? C'est qu'on a, mis le doigt sur quelque chose.
Oui, bah justement, parce que ces deux spécialistes que je viens de nommer ont joint leurs efforts, puisqu'il y en a un qui travaille sur les textes et le second qui arpente tous les sites d'Israël depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années. Eh bien, avec les pistes qu'a soulevées Thomas Romer dans les textes, ils se sont dit, on va aller voir sur place. Qu'est-ce qu'il y aurait à un endroit très précis et qui s'appelle Kiryat Jarim. C'est le site dont tu as parlé dans l'introduction, qui est à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Et c'est là, en effet, que selon le livre de Samuel, l'arche aurait été entreposée. Le mot n'est pas joli, aurait été déposé, c'est plus joli, avant son transfert vers Jérusalem quelques décennies plus tard. Et donc, ils se sont dit, on va aller sur place, à Kiryat Jarim, qui est un village qui existe encore aujourd'hui, et on va regarder ce qu'il y a sur place. C'est ça l'actualité, c'est qu'ils ont ouvert un chantier de fouilles à 10 km de Jérusalem. C'est là qu'ils ont trouvé, effectivement, on y revient plus en détail tout à l'heure, mais qu'ils ont trouvé des traces d'un sanctuaire qui date de l'époque des écrits bibliques.
Alors, on parle de fouilles, mais en fait, on pourrait limite parler de chantier compliqué, hein, parce qu'ils font faire appel à la technologie 3D, à des drones, parce que, ce que je disais également en introduction, c'est que le site, c'est un millefeuille, hein, et s'y empilent des tonnes et des tonnes de ruines, des traces historiques très anciennes.
C'est exactement cela. Donc, ils sont allés sur place et ils ont utilisé des drones de reconnaissance parce que le site de Kiryat Jarim, c'est une colline. Et ils ont utilisé des techniques, dont ce qu'on appelle la photogrammétrie, qui permet de voir sous la surface du sol, à partir des airs. Et ils ont établi que la colline est artificielle, qu'effectivement, c'est un millefeuille de différentes époques. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve une église catholique qui a été construite en 1924, qui porte effectivement, comme tu l'as dit dans l'introduction, le nom de Sainte-Marie de l'Arche d'Alliance. Bon, celle-ci, elle est donc contemporaine. Elle est bâtie sur une église byzantine qui datait du 4e, 5e siècle, qui avait été détruite par les Perses lorsqu'ils ont envahi Jérusalem en 1614. Et puis en dessous, ce sont les âges du fer, ce sont les âges bibliques, et on y trouve des traces d'une garnison romaine qui est vraisemblablement, parce qu'on a retrouvé une inscription, la Legio 10 Fretensis, qui est celle qui aurait détruit le temple de Jérusalem en 70. Et puis encore en dessous, il y a les vestiges d'un sanctuaire antique suffisamment important, suffisamment imposant pour que les deux chercheurs disent que vraiment, c'est un sanctuaire hors du commun.
Et donc en fait, ce sont ces fondations, hein, c'est cette structure de base qui permettrait d'affirmer que l'Arche de l'Alliance est passé par là.
Alors les spécialistes sont évidemment bien plus prudents que ça. On ne peut pas faire un lien en disant c'est là qu'est passé l'Arche d'Alliance. Ils peuvent juste dire il y a un sanctuaire antique à cet endroit qui est mentionné dans la Bible. Il y a une autre correspondance qui est établie par Thomas Romer, c'est que le nom de Kiryat Jearim en arabe, c'est Der El Hazar. Je prononce sans doute pas tout à fait correctement, mais ce nom évoque le prêtre Éléazar qui, selon la Bible, aurait pris en charge l'arche lorsqu'elle est arrivée sur place. Mais bon, voilà, on ne peut que dire ça, on ne peut pas aller plus loin. La chance que nous avons eue à Science et Avenir, c'est que notre grand reporter Bernadette Arnault, qui est spécialiste d'archéologie, a pu accompagner les deux spécialistes sur place et assister à ces fouilles qui sont assez exceptionnelles et qui se font dans des conditions difficiles parce qu'on ne peut pas détruire l'église qui est sur place. Donc voilà, pour l'instant, ce sont des sondages qui sont faits, mais qui sont donc très prometteurs, même plus que prometteurs, puisque des murs de plus de 30 cm d'épaisseur ont été découverts.
Et j'imagine que ces fouilles sont particulièrement suivies par le monde religieux et j'imagine en plus par différents corps religieux. On parle chrétiens, juifs et peut-être même musulmans.
Alors les fouilles archéologiques sont toujours suivies de près par les instances religieuses, mais les archéologues, eux, font leur travail, enfin, n'ont pas de lien avec l'Église.
Mmh. Porte-moi la lampe, je te laisse le reste du trésor, mais la lampe est pour moi.
Et est-ce qu'on peut légitimement, alors je te demande ton avis, hein, et peut-être celui de Bernadette qui s'est rendue sur place, penser que l'arche est vraiment passée par là?
On ne sait pas, mais pourquoi
pas? On ne se mouille pas.
Non, on ne peut pas se mouiller, parce que l'arche, on ne la retrouvera vraisemblablement jamais, si tant est qu'elle ait existé, parce que, comme nous le disions au départ, elle est en bois. Donc, vu les âges antiques, elle n'aurait certainement pas résisté déjà au temps qui passe. Mais d'autre part, on peut juste constater qu'il s'est passé quelque chose à Kiryat Jearim. Il y avait un sanctuaire important à 10 km de Jérusalem et que, visiblement, ce sanctuaire a été abandonné. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi il a été abandonné. Alors, Thomas Romer a des hypothèses, puisque dans la Bible, si on reprend la Bible, le livre de Samuel raconte que l'arche qui était entreposée à Kiryat Jearim a été transportée à Jérusalem. Et cela aurait été fait par le roi légendaire David, qui aurait fait ça au Xe siècle, pour que l'arche puisse reposer dans la capitale du royaume d'Israël, qui était Jérusalem. Mais Thomas Romer a établi que si ce transfert a eu lieu, il a été plus tardif et il aurait eu lieu plutôt au 8e siècle. Et sans doute parce que à l'époque, alors c'est très compliqué, il y a des conflits entre les royaumes qui sont sur place à l'époque, mais ceux qui avaient le pouvoir à Jérusalem voulaient que cette ville soit l'incarnation de Yahvé, de Dieu. Donc on rapatriait très vraisemblablement l'arche de Kiryat Jearim pour qu'il n'y ait pas deux endroits où on pouvait rendre un culte à Yahvé.
Note aux auditeurs, hein, quand on parle de 10e et de 8e siècle, c'est avant Jésus-Christ. Donc, ce qui vient aussi corroborer ce que disait tout à l'heure Carole sur le fait que si jamais l'arche était en bois, il est quand même peu probable qu'elle ait survécu, ou en tout cas, elle a dû subir les affres du temps depuis un petit paquet d'années. Cette étude, donc, qui est menée depuis quelques années, j'imagine, hein, par les deux spécialistes sur la colline, est-ce qu'elle nous aide à mettre le doigt ou à deviner un petit peu quelle a été la suite du trajet de l'arche?
Alors, cette recherche n'est pas ancienne, elle est récente. Ah oui. Les deux spécialistes sont allés sur place tout à fait récemment, il y a à peine quelques mois.
Ah oui, okay.
C'est un chantier qui a été ouvert vraiment il y a peu de temps. Et les recherches menées par Thomas Romer sont également très récentes puisqu'il les a exposées lors de l'année écoulée au Collège de France. Donc c'était le thème de ses cours du Collège de France de cette année. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait contemporain. Et alors, qu'est devenue cette arche? Alors là, vraiment aussi, c'est une question qui a ouvert grand l'imagination, parce que donc elle a quitté Kiryat Jearim, comme les auditeurs l'auront compris. Elle est partie à Jérusalem, alors là, sans doute pour rejoindre un temple mythique qu'on appelle le temple de Jérusalem ou le temple de Salomon, qui évoquera peut-être quelque chose à certains auditeurs. Et puis après, une fois qu'elle arrive à Jérusalem, on ne sait plus. Plus de mention dans la Bible, plus rien. Elle disparaît complètement des radars. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'elle a été cachée ? Est-ce qu'elle a été emportée comme butin par les Babyloniens quand ils sont arrivés, notamment par Nabucodonosor. Voilà, merci. Nabucodonosor II, lorsqu'il a détruit le temple de Salomon, et ça c'était en 586 avant Jésus-Christ, on précise. En fait, on ne sait pas. Ouais. Et du coup, eh bien, toutes les hypothèses sont envisagées, dont les plus folles.
Le viaduc, au premier coup de vent, crac !
Il est tombé ?
Il n'en reste que des ruines. Oh, ça fait joli dans le paysage, tiens.
Oui, parce que justement, on va y venir, on dit qu'elle aurait pu être, ou elle pourrait être encore aujourd'hui, en Éthiopie. On dit qu'elle pourrait être reposée sous la cathédrale, de Chartres. Et je crois même qu'il y a d'autres théories qui disent qu'elle est encore en Israël. Donc ça fait déjà quand même trois horizons assez différents, il y a du kilomètre. Quel scénario paraît aujourd'hui, alors je ne sais pas si la question a été posée aux deux spécialistes, mais qu'est-ce qui paraît le plus plausible aujourd'hui ?
Encore une fois, encore faut-il que l'arche ait existé. Mais l'idée, une des hypothèses, c'est celle de l'Éthiopie. Alors comment est-ce que l'arche a pu arriver en Éthiopie, où elle fait encore l'objet d'un culte ? Eh bien, ce serait par le roi Salomon, qui un jour aurait reçu son fils, qui s'appelait Ménélik, fils qu'il avait eu avec la reine de Saba. Tout ça, ça évoque,
c'est des grands
ouvre noms. L'imagination, effectivement. Et donc Ménélik était le roi de ce royaume qui se situe en Éthiopie actuelle. Et Salomon lui aurait proposé de devenir son successeur. Et Ménélik aurait dit non, je préfère rester roi chez moi, plutôt que de prendre ta succession. Et il aurait demandé à rentrer dans son pays, et Salomon lui aurait prêté une escorte pour qu'il regagne son royaume. Et c'est l'un des prêtres de cette escorte qui, ne voulant pas voyager sans l'arche, pour des raisons que nous ignorons, l'aurait volée et l'aurait remplacée par une copie à Jérusalem. Et donc, c'est comme ça que l'arche serait retrouvée en Éthiopie, où elle fait donc, comme je l'ai dit, toujours un culte dans l'église Sainte-Marie de Sion, où elle est sortie régulièrement, elle fait l'objet de processions, et cela a permis à toute une lignée de rois d'Éthiopie, encore récemment, au XXe siècle.
Les Sélassiés, c'est ça ?
Voilà, de se dire les descendants des grands rois davidiques, donc du nom du roi David, d'Israël. Voilà, d'avoir une lignée avec Israël.
Mais quelle est la théorie derrière le fait qu'elle soit peut-être sous la cathédrale de Chartres ?
Alors là, il faut bien qu'on fasse intervenir
les Templiers.
Eh
bien
oui,
évidemment.
Forcément, il faut bien qu'ils soient quelque part. Donc les Templiers, ils seraient allés récupérer l'arche en Éthiopie, à Aksum. Ah, et ils l'auraient ramenée à Chartres. Alors pourquoi Chartres ? C'est parce que sur un des piliers de la cathédrale, il y a la représentation d'une arche et une inscription qui laisserait penser que l'arche d'alliance est sous la cathédrale.
Ok, mais des fouilles ont été menées ou c'est là ça reste
pas, non, c'est, okay. Non, pas à ma connaissance.
Bon, donc on en déduit donc que l'arche perdue reste perdue. Hein. C'est ça la conclusion de cet épisode.
Je pense qu'elle restera perdue pour encore un bon nombre de milliers d'années.
Ouais, bon, donc en gros, il faut rendre à César ce qui lui revient. Indiana Jones avait réussi l'impossible. Dans la réalité, l'arche perdue reste bel et bien perdue. On en sait, cela dit, un petit peu plus sur l'objet, son histoire et les trajectoires qu'il a pu emprunter. Et l'on compte évidemment sur Science et Avenir pour nous tenir informés des avancées d'Israël Finkelstein et Thomas Römer ou des évangélistes américains, eux aussi, sur les traces de l'arche. Après tout, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. À ceux qui veulent creuser le sujet, je vous renvoie à l'excellent dossier réalisé par Bernadette Arnault, envoyé spécial en Israël pour Science et Avenir. Je vous propose également de rentrer dans l'histoire en gravant sur la page iTunes de 6ème Science un commentaire historique. Selon certains, les étoiles survivraient mieux aux épreuves du temps quand elles sont sculptées par 5. Je dis ça comme ça. On vous dit à dans un mois et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et Science et Avenir.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.